Mais so Epstein, cela veut dire souviens-toi de te méfier. C'est, je crois, une très bonne maxime que chaque historien devrait avoir dans sa tête.
Jacques Rossi, un communiste français au goulag.
Je suis là sans avoir peur, c'est ça qui fait plaisir. Ah, c'est génial ça! Je voudrais l'embrasser, cette Loubianka, qui ne fait plus peur! Alors que c'était le symbole de la terreur d'État pendant 73 ans. Ah, ça fait très plaisir de voir cette menace sans en avoir peur. Mais c'est magnifique ça!
C'est une chance, savez-vous, d'avoir rencontré ce vieux monsieur souriant, disponible, à la belle élocution précise. À la fin de sa longue vie, il avait pu retourner à Moscou, devant la prison de la Loubianka, où il avait été détenu en 1937. La grande purge stalinienne de cette année-là l'avait enfermé pour 24 ans en URSS. 2 ans en cellule, 7 en relégation et le reste dans les camps du Goulag, avant le départ du pays enfin, en 1961. L'anniversaire de 1917 fait que l'archipel du Goulag revient un peu au jour. 20 millions de détenus, estiment Nicolas Werth et Luba Jorgensen, dans la somme qu'ils viennent de publier chez Bouquin. 4 millions de morts, échelonnés sur une durée beaucoup plus longue que celle du nazisme. La destination des camps soviétiques n'était pas la mort, comme dans le nazisme, mais la vie n'y avait nulle valeur. Jacques Rossi disait... Le nazisme était à l'épicentre de l'Europe, l'URSS à la périphérie. Les Occidentaux ont toujours eu tendance à y jeter un regard teinté d'indifférence coloniale. Une preuve parmi tant d'autres, le livre très singulier qu'il imagina pendant sa détention et mis au point après sa libération eut beaucoup de difficultés à paraître dans notre pays. Ce fut fait enfin en 1997, un autre anniversaire. Le titre de ce livre, « Le manuel du goulag », une encyclopédie technique, des centaines d'articles écrits froidement, sans émotion, sur le plus vaste ensemble de travail forcé du XXe siècle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
C'est en 1909 que Jacques Rossi est né, d'une mère française, remarié à un riche notable polonais. Installé avec sa famille en Pologne, depuis que celle-ci a recouvré son indépendance, il y vit une enfance de privilégié. Il rompt ensuite avec son beau-père à l'âge de 18 ans. Il aime l'appellation de camarade. Il adhère au Parti communiste polonais.
Vous connaissez peut-être le camarade Prométhée, c'était bien avant le coup d'État bolchevique de 1917, qui a eu l'idée d'aller voler le feu au Dieu, pour l'offrir aux hommes. C'est noble, ça. Moi, j'étais prêt à me faire arracher, vous savez, le foie, comme c'était avec Prométhée, hein, c'était l'aigle qui lui a bouffé son foie. Ben, moi, j'étais tout à fait prêt pour ça, parce que l'éthique, c'était éthique, c'était dans l'intérêt de la classe ouvrière, que je considérais comme ce qu'il y avait de plus important.
Dès 1930, le jeune Jacques Rossi est chargé de missions clandestines par le Comintern, l'organisation internationale communiste. Il se rend d'un pays à l'autre, sous couvert d'études prolongées. Très vite polyglotte, il connaîtra une dizaine de langues, il s'avère très utile. Cette connaissance des langues le rendra plus tard suspect. Sa mission en Espagne va être de courte durée.
Alors en 1937, c'était déjà la guerre en Espagne, j'étais en Italie, à Milan. Je rentre à Moscou, parce que Moscou, c'était notre capitale. Et on m'envoie en Espagne pour faire marcher une station clandestine, TSF. Cette escapade espagnole a duré très, très peu. On était envoyé là-bas pour rester sur place, derrière les lignes de Franco. Au bout de quelques jours, la radio me dit de rentrer à Moscou. Il était convenu que je reste pendant assez longtemps et il était convenu encore comment je serais remplacé. Parce que vous savez, c'est tout un procédé, remplacer quelqu'un qui est super clandestin, enfin qui est clandestin par un autre clandestin, c'est pas facile. Alors, je ne comprends rien. Je savais qu'il y avait des arrestations parce que je suis sur un territoire de Franco, mais quand même libre, plus libre que l'Union soviétique. Mais nous étions des fidèles communistes, des communistes très fidèles, très naturellement, ça ne nous concernait pas. Ce sont les traîtres qui devaient avoir peur, pas nous. Bref, je suis parti. C'était toute une histoire, comment faire pour partir. C'était pas facile. Et on me dit, est-ce que vous savez pourquoi êtes-vous là? Alors ça m'étonne un tout petit peu. Vous êtes un espion français, Palanet. Alors là, vous savez, j'ai vraiment rigolé. Parce que c'est tellement idiot, vous savez, moi qui venais d'être tiré d'Espagne. Alors je me suis dit, alors c'est bien, c'est évident. Alors maintenant, dans quelques minutes, elle me dira, mais oui, camarade, on s'était trompé, etc. Ou bien, au maximum, ça sera dans 2 ou 3 jours, n'est-ce pas? Eh bien, les 2 ou 3 jours, ça a duré 24 ans à peu près.
On arrêtait à cette époque rien que pour 2 raisons. La première, quand il y avait une raison. Et la seconde, tous les autres cas. J'étais un petit rouage dans cette machine. C'était la période, alors 37 déjà, c'était la période de la terreur stalinienne que vous connaissez. Et donc, quand on abat tous ces personnages, dont nom Boukharine, Zinoviev, Kamenev, etc., les acolytes de Lénine, forcément, après ça, il y a ce qu'on appelle la queue. C'est un mot technique au goulag qu'on emploie pour dire tous ceux qui sont arrêtés par la suite. Alors, ce sont naturellement des camarades des combats, ceux qui étaient avec eux dans les combats révolutionnaires. Ensuite, tous ceux qui étaient leurs amis personnels. J'avais parmi mes camarades, à la prison de Bouterka, à Moscou, la grande prison, j'avais parmi mes camarades aussi un monsieur qui était un garçon, qui faisait la cour à la cuisinière de Trotsky. Alors vous voyez, ce sont tous les chauffeurs, tous les femmes de ménage, tous les camarades d'école qu'on trouvait, vous savez, on remontait très très loin en arrière. Alors ça fait une avalanche, n'est-ce pas? Il y a un Boukharine en haut, ou bien Zinoviev, et puis ça fait une avalanche, ça fait une pyramide Khéops, si vous voulez. Ce sont vraiment des milliers, des centaines, des milliers de gens. Alors, le principe, c'était, si je ne me trompe pas, je ne voulais pas le croire à l'époque, mais plus tard, je me suis rendu compte que c'était tout simplement la nécessité de s'aimer la terreur.
La police politique attend de Jacques Rossi qu'il avoue avoir participé à une conspiration qu'elle a inventée de toutes pièces. Espionnage, a-t-elle décidé, et au profit des 2 pays dont il a la nationalité, la France et la Pologne. Il est condamné à 8 ans de redressement par le travail. Il ne va pas réaliser tout de suite que ce temps fixé pour sa peine n'a pas même de valeur indicative.
Au goulag, c'est pas du jour au lendemain que je me suis dit que le marxisme-léninisme, c'est du mauvais. Je vous dirais encore mieux que le jour où j'étais déjà en prison de Bouterka, s'il y avait par hasard, absolument impensable, par hasard, s'il y avait le consul français ou polonais, parce que j'avais la double nationalité par mon beau-père, venez me tirer de la prison, je suis sûr que j'avais une seule réponse. Messieurs, j'ai rien à foutre avec vous, vous êtes des capitalistes. Nous sommes des communistes, c'est un malentendu, mais ça nous regarde, nous, les communistes. Ça, c'est tout à fait certain, je n'aurais jamais voulu le parler. Le séjour au goulag, c'est très, très utile. Je regrette que les soviétologues, il y en avait beaucoup ici, aucun de grands soviétologues européens, américains, français, britanniques, n'est jamais passé quelques années au goulag. Ça, vraiment, c'est une grande faute, parce que c'est au goulag que vous voyez la réalité soviétique. Alors, j'étais encore le jeune enthousiaste, moi je cherche à m'excuser, mais n'oubliez pas, je viens de vous dire, je ne suis pas victime, parce que je considère que j'aurais dû faire beaucoup plus d'efforts intellectuels pour comprendre que le projet, beau qu'il soit, n'est pas réalisable. Donc il ne pouvait pas être autre que criminel.
La peine de Rossi expire en principe en 1945. Elle est prolongée par disposition spéciale jusqu'en 1947. À cette date, on lui accorde une libération conditionnelle. Il est assigné à résidence à Norilsk, 70e parallèle nord. En 1949, il est de nouveau condamné, cette fois à 25 ans, toujours pour espionnage, mais le périmètre de l'accusation s'est élargi. Il aurait cette fois œuvré à la fois pour le compte de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Le périple recommence. Il faut imaginer l'archipel du Goulag parcouru en tous sens d'innombrables trains qui transportent les détenus, les zecs tondus, vêtus seulement de coton, dans des wagons dits Stolypines, du nom d'un ministre de Nicolas II qui avait fait mettre au point l'aménagement des trains à des fins pénitentiaires. Et puis à l'arrêt...
Moi, vous savez, avec l'expérience de mes 24 ans de goulag, vous savez, ce qui est important, ce sont surtout les passages par les prisons de transit. Chaque fois quand les masses de main-d'œuvre devaient être envoyées quelque part dans un autre chantier, on faisait des milliers de kilomètres en transport, et pendant ces milliers de kilomètres, on faisait des escales dans des prisons de transit. Dans ces prisons de transit, c'était très intéressant, on rencontrait des gens qui venaient de tous les autres camps et prisons. Pas tous, mais beaucoup. Et de cette façon, on avait l'impression, vous savez, on parlait avec des gens qui étaient parfois des petits scribes, vous savez, qui avaient la liste avant d'être envoyés dans cette prison de transit. Ils tenaient les listes de la distribution de pain, par exemple. Mais de cette façon, dans sa tête, il avait le chiffre plus ou moins exact de prisonniers dans son camp, dans cette unité où il était. Et alors, de cette façon, vous savez, c'est une sorte de mosaïque. J'ai rencontré un prisonnier qui venait d'une prison top secret et qui ne savait pas qu'il y avait une seconde guerre mondiale en 1955.
Interprété par Dina Vierny, ce chant du goulag, de nouveau, je suis dans la prison, le soleil ne brille plus pour moi sur les chalis, pute, sur les chalis, et dehors, librement se promènent les pigeons et les poules, putain.
Я помню тот Ванинский порт и виды пароходов угрюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья. И только порой с языка срывались глухие проклятия.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nous vous proposons aujourd'hui de faire revivre la voix de Jacques Rossi, détenu français du Goulag. Ce sont des archives qui viennent pour l'essentiel de France Culture et notamment d'entretiens à voix nue avec Jean-Marc Turine. En détention, Jacques Rossi va emmagasiner dans sa mémoire quantité de renseignements, d'histoires, de mots dont il imagine déjà qu'il fera son miel à sa libération pour composer un manuel du goulag. Nourri donc des mots officiels, des acronymes administratifs, informé par l'expérience d'en bas, celle des ex, celle des gardiens aussi. La novlangue soviétique comme la langue populaire russe y ont toute leur place.
Il y a un mot qui m'intéresse, c'est le mot « travail ». Alors je vois qu'il y a le travail coercitif, le travail culturel et éducatif, le travail culturel d'instruction, le travail pour truand, le travail coercitif sociaux, les travaux d'extermination par le travail, les travaux forcés, les travaux de masse, les travaux de redressement, les travaux de redressement par le labeur, les travaux de redressement par le labeur sans privation de liberté. Qu'est-ce que c'est que...
Tout ce sont des termes officiels, mais le travail, par exemple, pour le truand, c'est un terme argotique. Le truand, normalement, ne travaille pas. Tout simplement, il est truand et il fait travailler les autres. Parce que l'équipe, si on est envoyé, les prisons, ils sont subdivisés, sont organisés par équipe selon les nécessités du chantier. Et dans cette équipe, il peut avoir aussi un truand. Alors tous les coéquipiers, soit ils savent que lui, il ne travaillera pas, et il n'y a pas de moyen. Parce que
et les gardiens ne peuvent pas le forcer.
Cela ne les intéresse pas. N'oubliez pas que c'est l'Union soviétique. J'ai dit déjà 10 millions de fois que le marxisme-léninisme, c'est une triche. n'est-ce pas? Ça vous dit que la dénomination de l'institution, le travaux de redressement, est-ce qu'on devait me redresser alors que j'étais un bon citoyen? Un bon communiste, non, c'était du bidon, n'est-ce pas? Alors, tout est mensonge. Alors, vous avez ici le mot « travail ». Ce sont des expressions, alphabétiquement, ça vient un après l'autre. Il y a des termes qui sont officiels, oui. N'est-ce pas? Des termes de l'administration, et puis aussi le terme argotique « travail de truand ». Travail de truand, c'est dans notre argot, goulaguien général, pas forcément celui des truands, ça veut dire un travail qui ne demande aucun effort. N'oublions pas le mot, car très important pour connaître l'Union soviétique, la « toufta ». Toufta, c'est un mot qui est expliqué dans mon manuel du goulag, je vous y renvoie. C'est la triche, c'est que faire semblant. Puisqu'on nous demandait, pour survivre, de remplir des normes de rendement de production impossibles à réaliser, nous avons inventé cette « toufta », cette façon de faire comme si. Alors, on était très contrôlé, mais on arrivait. Vous savez, il y a un dicton français qui dit au menteur, menteur et demi. En russe, c'est un beaucoup plus joli. On dit nachitruyujop ou huizvintom. Je ne veux pas le traduire, c'est trop dur.
Principe de base, donc, au goulag, les truands sont mêlés aux politiques. Ils sont d'ailleurs les premiers à prendre l'initiative des évasions.
Les truands qui cherchent à s'évader d'un camp de concentration soviétique, ils sont parfois dans une situation très difficile. Ça dépend de la géographie. Si c'est quelque part dans le haut nord, dans la toundra, c'est vraiment très difficile. C'est vide, on ne peut rien voler pour se nourrir. Donc, on ne peut rien attraper, il y a vraiment rien à manger là-bas. Alors, dans cette situation spéciale, relativement rares, les truands qui ont organisé cette évasion, généralement deux, trois, pas jamais trop, ils invitent à prendre partie à cette évasion un jeune débutant qui est naturellement fier de pouvoir participer à une entreprise faite par des gros truands qui sont connus, chevronnés, vous voyez, ça le flatte. Ben, ils le prennent, ils lui proposent ça, justement dans ce cas, où si jamais on ne peut plus tenir, c'est déjà la fin, alors on lui prend son sang, on l'égorge, on lui prend le sang artériel, et on lui mange les kidneys ?
Les reins.
Les reins. Parce que vous savez, on le sait, que ce sont des produits qu'on peut consommer sans cuire. Quand on est en évasion, il ne faut pas allumer le feu, parce que ça attire
l'attention.
Alors, vous savez, c'est pas tellement fréquent. Il faut pas croire que tous les voyous russes mangent de l'homme, mais c'est pas excessivement rare.
Article enfant du manuel du goulag. Il distingue les différentes catégories d'enfants, étant entendu qu'on peut être expédié au goulag dès l'âge de 12 ans. Les enfants des koulaks, les enfants des ennemis du peuple, les enfants espagnols. Leurs parents révolutionnaires sont retournés militer en Espagne pour s'assurer de leur loyauté. On prend soin de leurs enfants. Les enfants des résistants grecs de la guerre civile, pareillement. On fera de même pour les enfants des alliés afghans après 1980.
Évasion. 1. Au temps des tsars. 1.1. Sous les tsars, il y avait des cas d'évasion de prison, mais les évasions des lieux de déportation étaient beaucoup plus fréquentes. Dzerzhinsky, le futur fondateur de la police politique, fut déporté à 3 reprises et réussit chaque fois à s'évader. Considérant l'aspiration à la liberté comme naturelle, les autorités tsaristes ne faisaient pas passer l'évadé en justice. 1.2. L'opinion publique manifestait de la compassion à l'égard des prisonniers évadés. De vieilles chansons racontent comment les paysans de Sibérie venaient en aide aux évadés. 2. À l'époque soviétique. 2.1. Non seulement le régime soviétique pénalise l'évasion, mais il dissuade la population de venir en aide aux évadés. Des primes alléchantes sont versées à tout individu livrant un évadé, mort ou vif. Aussi, un détenu évadé cherche-t-il à tuer le premier toute personne qu'il a repérée dans un endroit désert. Confère petite tête, chasseur d'hommes. Chasseur d'hommes. Habitants de régions peu peuplées qui, pour améliorer leurs revenus, pratiquaient la chasse aux prisonniers évadés. 4 ou 5 ans après le coup d'État bolchevique, les autorités communistes commencent à recruter des chasseurs d'hommes dans la population de la Carélie, dans le nord-ouest, passage obligé des évadés cherchant à rejoindre la Finlande. Les premiers camps de concentration se trouvent dans cette région. Contrairement à la police tsariste, la police soviétique ne tient pas à récupérer l'évadé vivant. Il suffit de présenter la tête tranchée. Chaque tête de fugitif équivaut à 2 semaines de salaire moyen en liquide, 32 kilos de farine, 4 livres de sucre, etc. Ce qui est très intéressant vu les pénuries endémiques. Petite tête. 1. Les chasseurs russes et autochtones de l'Arctique soviétique touchent une prime fixe pour la capture d'un prisonnier évadé. Comme il est très risqué d'escorter dans l'immensité de la toundra un fugitif prêt à tout, le chasseur l'abat et se contente de rapporter sa tête aux autorités. Pour éviter de se déplacer trop fréquemment, il stocke dans une cachette sûre les petites têtes récoltées en hiver et au printemps. Il les met dans un sac pour aller les livrer au client qui lui versera une prime après identification de chaque tête. Il arrive qu'à la place d'un évadé, il ait abattu un membre égaré d'une expédition géologique par exemple. Dans ce cas, il est écroué et jugé pour meurtre. Mais ce sont là les risques du métier. Quoi qu'il en soit, il est payé pour les bonnes têtes.
Tournons les pages du manuel du goulag de Jacques Rossi, article suicide. Curieusement, le suicide est rare au goulag. On n'a pas franchi tellement d'épreuves pour clamser trop vite.
Clamser. Voici une brève liste d'expressions signifiant mourir, dont certaines ne peuvent être traduites qu'approximativement. 1. Lâcher les amarres. 2. Passer l'arme à gauche. 3. Glisser sous la butte. Expression employée dans les camps de Sibérie orientale où les nombreux volcans sont appelés des buttes. 4. Trébucher dans la caisse. 5. Enfiler la capote de bois. 6. Donner dans le chêne. 7. Étendre les pattes ou les sabots. 8. Se faire évacuer la plaquette à la jambe gauche. 9. Être libéré la plaquette à la jambe. 10. Plonger dans le merdier. 11. Se planter au 8e kilomètre, se planter au 12e piquet. Les détenus étant enterrés dans la toundra, l'emplacement de l'inhumation est fixé en fonction de repères de géomètres. 12. Échouer dans la 16e compagnie. L'expression date du premier camp de concentration situé sur les îles Solovki. Dans les années 20, les détenus étaient répartis en 15 compagnies. 13. Finir sous le mont Schmitt. L'expression apparaît dans les camps de Norilsk en Arctique à la fin des années 30. Le flanc du mont Schmitt, baptisé ainsi en l'honneur d'un célèbre géophysicien soviétique, sert de cimetière de prisonniers. 14. Être libéré avant terme. Confère certificat de décès. Certificat de décès du détenu. Le décès d'un détenu fait l'objet d'un procès verbal. Recueil des lois de l'URSS de 1930, 22-248, article 41. Une circulaire ultérieure prescrit d'arracher les dents en or des détenus et de les envoyer à Moscou avec une copie du certificat de décès. Confère archive A. Clamsé.
Jacques Rossi va pouvoir rédiger plus vite qu'il ne le pensait ce qu'il a fixé dans sa mémoire pendant ses années de détention, puisque Staline meurt enfin en 1953.
En 1956, quand j'étais là après la mort de Staline, ah, j'avais beaucoup de sympathie pour Staline au moment où j'ai appris sa mort. Pendant un petit quart de seconde, quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, oh, quel brave type, quand même. Parce que je me suis rendu compte que ça allait changer. Alors, lui, il était mort au mois de mars 53, et seulement en été 56, j'étais libéré à la soviétique. Ça veut dire que je devais faire encore 4 ou 5 ans de déportation. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion d'aller à l'ambassade française et j'étais très bien reçu par l'ambassade, très très bien. Mais j'ai pas demandé l'asile politique, n'est-ce pas ? J'ai pas refusé de sortir de l'ambassade. qui ne m'aurait pas expulsé, bien sûr. Parce que, tout simplement, j'avais ce souvenir. J'étais auparavant un ardent communiste contre toute cette bourgeoisie. Et l'ambassade de France, c'est l'ambassade de la bourgeoisie française, selon mes idées d'antan. Maintenant, mes idées ont changé, mais j'ai pas voulu les emmerder.
Après 1961, c'est en Pologne communiste que Jacques Rossi trouve d'abord refuge. Il va même tenter d'être réinscrit au parti pour des motifs indémêlables, tentative de sécuriser les modestes emplois d'intellectuels qui lui sont offerts, vieille fidélité au communisme, défi aux dirigeants communistes officiels qui s'en réclament et ne sont que des menteurs. Il revient de temps à autre en France, il passe des mois au Japon, aux États-Unis, et enfin il se réinstalle dans la région parisienne à partir de 1985, soutenu par une association d'amis. Il va habiter dans des quartiers populaires de Paris, puis dans un HLM de Montreuil, vieux bastion du PCF. C'est là que, comme bien d'autres, je l'ai rencontré. Il avait un appartement spartiate, il ne possédait rien, et il était fier de son adresse, rue de la Résistance. Depuis sa libération, il n'avait cessé de travailler à son manuel, aux notations qui lui étaient propres. Il avait ajouté le résultat de ses lectures, avec toujours la même organisation. Traduction des mots russes, référence à l'époque tsariste, qui donne de la profondeur de champ, renvoie à d'autres articles. Le manuel du Goulag paraîtra en de nombreuses langues, mais en France, les éditeurs ont généralement hésité, jusqu'à ce que le Cherche-Midi prenne enfin la décision de publier, en 1997, Jacques Rossi donnera en même temps quelques autres volumes de nouvelles et de souvenirs. Par exemple, quelle était belle notre utopie.
Mais Jacques Rossi, votre sérénité apparente d'aujourd'hui est-elle le fait d'une grande douleur d'hier?
Mais non, mon vieux, pas du tout. Écoutez, j'étais sur
Vous
la
êtes
voie.
Un cas.
Écoutez, j'étais sur la voie de devenir un communiste croyant dans cette misère, dans cette super merde sanguignolente, vous savez. Et j'ai eu l'occasion de quitter cette voie qui mène vers cette catastrophe. Et c'est très bien. Si vous engagez sur une voie, sur une mauvaise voie. Et si vous avez l'occasion de la quitter, c'est votre victoire.
Mais vous vous dites, je me suis trompé.
Et bon, écoutez, après tout, c'est Staline qui est mort et Jacques Rossi,
il est là. Il est très vivant.
Chez Jacques Chancel, n'est-ce pas ? Moi, j'étais au départ communiste, ça veut dire j'étais tourné vers les gens, n'est-ce pas ? Et je le suis toujours, je le crois, je le suis toujours. Et donc, vous savez, ce que j'ai souffert là-bas, ça ne m'empêche pas de voir que eux, ils avaient souffert beaucoup plus et depuis plus longtemps.
Préparation de cette émission, Léa Polverini, Eric Oswald pour les lectures, Guillaume Roux à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation. Il faut quand même que j'ajoute qu'après un AVC en 2001, Jacques Rossi s'est marié à 90 ans avec une amie française qu'il avait constamment soutenue. Il est mort en 2004. Le site Electre annonce à propos de son manuel du Goulag réimpression en cours. Accélérer le pas.